Les experts Europe 1.
Les experts Europe 1, 14h-15h30.
Roland Pérez.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bonjour Anissa.
Bonjour Roland, bonjour tout le monde.
Anissa, quelle folle semaine pour les experts
C'est
Europe 1.
Vrai.
Lundi, on vous a donné la parole pour évoquer le rôle des grands-parents dans vos vies. Mardi, on est parti à la rencontre des mères au foyer, de celles qui avaient fait le choix plutôt de travailler à tout prix. Mercredi, le tabou de la sexualité pour les handicapés a été levé. Les échanges avec les experts et témoins ont été vraiment passionnants. Hier, vous avez été très nombreux à vous manifester pour poser vos questions et témoigner sur les sports d'hommes plébiscités par les femmes. Et on va finir aujourd'hui la semaine en mettant à l'honneur le scoutisme et donc les scouts avec cette question. Le scoutisme, ringard ou pas ?
Tout le monde connaît les scouts. Pour autant, savez-vous vraiment quelle est la réalité du scoutisme aujourd'hui ? Ouvert à tous, sans distinction de nationalité, de culture, d'origine sociale ou de croyance, quelle est l'image que vous avez du scoutisme ? Quelles sont les réalités du scoutisme aujourd'hui ? Enjeux éducatifs, pédagogiques, solidarité, ouverture à l'autre. N'hésitez pas à venir témoigner et à poser vos questions à nos experts Europe 1 jusqu'à 15h30 par téléphone 39 21, 34 centimes d'euros la minute. La page Facebook de l'émission. N'oubliez pas de laisser vos coordonnées
pour qu'on puisse vous rappeler. Oui, c'est important.
Et le site internet de votre radio europe1.fr pour vos mails.
Comment s'organise le scoutisme ? Quelle est la différence entre les scouts et les éclaireurs ? Quel est le rôle des chefs et des cheftaines ? Et le handicap et les scouts. On en parle avec les experts européens jusqu'à 15h30. Sachez déjà que le vendredi, un scout ne dit pas « je suis en week-end » mais « je pars en week-end ». Alors en route avec les scouts pour 1h30 d'échange, de souvenirs et forcément de sourires.
Les experts européens.
Roland Pérez.
C'est qui a ? C'est pour les scouts. En bas des bébelles, plus notre qu'un scout.
En bas des bébelles, en bas des bébelles.
Le matin, quand on se lève, adieu la nuit et ses rêves, nous allons les louveteaux nous laver dans le ruisseau.
Votre responsable sera Jean-Baptiste Fougret. Les plus pures traditions du scoutisme seront respectées à la lettre.
Ouais.
Scout, toujours
ouais.
Ouais. C'est nous les loups, les loups, les loups, les petits loups. Et l'on nous voit toujours, toujours, toujours partout.
Alors le feu, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours et qui va nous servir à la fois pour tout ce qui est nourriture, mais aussi le soir, à la veillée.
Bonjour madame, monsieur, je m'appelle Russell et je suis un explorateur de la tribu des Wapiti, section 54, 12e campement. Avez-vous besoin que je vous rende un service aujourd'hui, monsieur ?
Non.
Un kilomètre à pied, ça use, ça use. Un kilomètre à pied, ça use le soulier.
Et vous l'avez reconnu pour ouvrir cette émission, la bande originale du film Scout Toujours, film de 2 et avec Gérard Junior, 1985. Et nous sommes évidemment avec deux grandes scouts. D'abord Sophie Mancel, qui est salariée de l'association des Scouts Guides de France. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et Elsa Bounot, qui est présidente des éclaireuses unionistes de France. Bonjour.
Bonjour.
Alors les éclaireuses unionistes de France, c'est protestant, je crois.
Oui, c'est l'association protestante de scoutisme, oui.
Alors, merci vraiment à toutes les deux d'avoir accepté de jouer les scouts pour nous, pour cette émission. D'ailleurs, tout de suite, quelle est la différence entre scout et éclaireur ?
Alors, Sophie Mancel. On en parlait tout à l'heure, il n'y a pas de différence en fait entre scout et éclaireur. Ce sont deux mots qui signifient la même chose. Simplement, le mot scout, scout, c'est éclaireur en anglais. Donc, c'est le même mot, mais dans deux langues différentes. Sachant que le mot scout vient du français et scout. Éclairé, voilà.
Alors, vous êtes, vous, Elsa Bounot, je l'ai dit, vous êtes présidente des éclaireuses unionistes de France. Vous êtes, et on le voit là aujourd'hui, vous êtes la plus jeune présidente.
Alors, je suis la plus jeune présidente d'une association membre du scoutisme français. En fait, il y a cinq associations qui sont regroupées au sein d'une fédération. Et c'est cette fédération qui est reconnue par des instances mondiales. Et il y a une association par confession et une association laïque. Et donc, nous sommes cinq. Et effectivement, de ces cinq associations, je représente l'association protestante et je suis effectivement la plus jeune des cinq présidents.
Alors, on va le dire aussi, il existe donc des éclaireurs, vous êtes là aujourd'hui pour les éclaireurs protestants, il y a les éclaireurs israélites, il y a aussi des scouts musulmans de France, et puis il y a aussi des éclaireurs, on va dire, laïcs, neutres.
Éclaireur-éclaireuse de France, oui.
Éclaireur-éclaireuse de France, d'accord. En 2007, le scoutisme a fêté ses 100 ans d'existence. Diriez-vous, toutes les deux, j'imagine que vous allez me dire le nom, que le scoutisme est dépassé aujourd'hui, Sophie Mancel ?
Je ne crois pas qu'il soit dépassé, puisque au contraire, depuis 2007, on assiste une montée des effectifs. On a plus 13% d'effectifs, nous, dans notre association des scouts et guides de France. Et je crois au niveau du scoutisme français qui se porte très bien. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une proposition qui répond à des attentes de la société. Donc je ne pense pas que le scoutisme soit dépassé.
Et en termes de chiffres, est-ce qu'on assiste justement à une progression d'année en année, une progression plutôt à la hausse ?
En fait, il y a eu une baisse des effectifs dans les années 90 et qui aujourd'hui est largement rattrapée pour les raisons qu'évoquait Sophie, c'est-à-dire un retour à des questions très sensibles sur l'environnement, sur la fraternité. Et c'est des choses auxquelles on répond dans le cadre du scoutisme et qu'on propose aux jeunes.
On est bien d'accord pour dire que le scoutisme est indépendant de tout parti politique.
Absolument.
Autant il peut avoir une connotation religieuse, il peut être aussi évidemment laïque, vous l'avez rappelé, autant il est vraiment affranchi de toute opinion et tendance politique.
Ce sont des associations d'éducation populaire qui, justement, sont des associations d'éducation et donc ont vocation à éduquer les jeunes qui y participent et donc à les laisser faire leur choix.
Peut-être par contre préciser qu'elle forme des citoyens et des citoyens engagés. Ça veut dire qu'à la suite de ces engagements-là, en tant qu'enfant, en tant qu'adulte, on a des gens qui vont peut-être s'inscrire dans le cadre d'engagements associatifs, mais aussi d'engagements politiques. Et nombre de nos gouvernants aujourd'hui sont passés par l'école du scoutisme.
D'accord. Quand on a été soi-même scout, est-ce que quand on devient parent, on met ses enfants justement dans ces mouvements scouts ?
Je n'oserais pas vous dire le contraire,
Sophie,
parce que c'est le cas des miens.
C'est le cas des vôtres,
oui.
D'accord.
Je pense que quand on a été soi-même scout, on se reconnaît dans un certain nombre de valeurs qu'elle a citées, l'engagement, la citoyenneté, la fraternité, la défense de la paix, le respect de l'autre.
L'altruisme, oui.
Et puis, je pense que on reconnaît ces valeurs et donc on a envie que nos enfants y adhèrent aussi à leur tour.
Elsa Bounot, comment vous y êtes venue, vous ?
Alors moi, je suis fille de pasteur, et le pasteur, c'est le prêtre protestant.
Ouais.
Et donc, à ce titre, mes parents avaient eux-mêmes traversé les bancs du scoutisme. Et donc, j'y suis arrivée tout naturellement parce que mes parents me l'ont proposé. Mais pour moi, ça a accroché et j'y ai appris beaucoup de choses et j'y suis restée jusqu'à aujourd'hui.
Alors, au-delà de toutes les valeurs que nous enseigne effectivement ce mouvement, ces mouvements, est-ce que vous diriez aussi que ceux que vous avez rencontrés en tant que scout, vous les avez gardés finalement à la vie, à la mort comme amis ?
C'est certain qu'on garde des liens très forts avec les gens avec qui on a fait du scoutisme parce qu'on partage des valeurs et puis on partage des moments aussi, que ce soit des camps, des week-ends dont vous parliez tout à l'heure, des projets qui nous marquent, les jeunes adultes chez les scouts et guides de France par exemple, mais dans les autres associations, vivent des projets entre 17 et 21 ans, souvent de solidarité, parfois de solidarité internationale, qui les marquent énormément. Et donc je pense que les relations qu'on établit dans le scoutisme sont des relations qui marquent, oui.
Alors, on va accueillir un premier auditeur. Vous êtes déjà nombreux à joindre le 39-21. Faites-le, on va vraiment vous donner la parole parce que c'est important aujourd'hui de rappeler à la fois les valeurs du scoutisme, rappeler que c'est absolument pas ringard, au contraire. Et on donne la parole justement à Youssoufou. Bonjour Youssoufou.
Youssoufou ? Vous allez bien ?
Ah ben moi, je vais très bien et vous aussi, Youssoufou, apparemment.
Oui, ça va très bien.
Alors, vous êtes chef Louveteau Jeannette. Expliquez-nous ce que c'est.
Ah ben ouais,
c'est pour les plus petits.
Louveteau Jeannette à Saint-Denis dans le 93.
Oui.
C'est Louveteau Jeannette, c'est le plus petit, c'est de 8 à 11 ans.
Oui.
C'est des enfants avec qui qu'on accompagne dans le mouvement le scoutisme. C'est le plus petit, après les Louveteau.
Quand vous dites les plus petits, c'est quel âge ? Justement, on peut commencer le scoutisme à quel âge ?
Alors, on peut commencer le scoutisme.
Sophie Mancel, oui.
Alors, on peut commencer le scoutisme à 6 ans. Nous, on a une proposition
qui
s'appelle
vous les acceptez à 6
Farfadets,
ans.
Qui commence à 6 ans. Et ensuite, les propositions qui sont encadrées par les jeunes adultes commencent dès 8 ans, avec
d'accord.
Les Louveteaux et les Jeannettes.
C'est les Louveteaux. Donc, c'est à partir de 8 ans que vous les avez, vous, Youssoufou ?
Oui, moi, je les ai à partir de 8 ans et de 8 à 11, oui.
Vous les accompagnez. C'est difficile de les laisser partir à 11 ans, d'avoir un autre groupe après ?
Bah ouais, c'est un peu difficile vu que ouais, c'est des jeunes, mais en même temps quand t'as d'autres Et ça, tu enchaînes, tu commences, tu continues encore à nouveau. Et après, tu t'adaptes encore à ces jeunes. Tu les laisses partir à 11 ans. Et après, tu as encore d'autres jeunes qui viennent. Et c'est comme ça.
Et pourquoi et comment vous êtes venu au scout, vous, Youssoufou?
Ouais, moi, j'en ai entendu parler des scouts et tout. J'ai jamais été scout. À la base, je suis un musulman, Abdoul, comme vous entendez mon prénom.
Oui.
Et j'ai un pote, j'ai un ami, Arnaud, qui est responsable de groupe à Saint-Denis, en fait. Et moi, au début, je savais pas qu'il était scout. Et il s'est fait que j'étais au chômage, je travaillais pas. Mmh. Il m'a fait une proposition, soi-disant, écoute, j'ai un rassemblement, et si t'as rien à faire, les samedis, tu peux venir avec moi et tout. J'ai fait, ok, d'accord, j'aimerais bien. Et du coup, il m'a amené au Jamboree, c'est le plus grand rassemblement des Bleus.
Mmh.
Oui, à Jean-Pil, et c'est là, j'ai très bien aimé, j'ai apprécié l'ambiance. C'était comme si on se connaissait depuis des années, tout le monde était ouvert, on parlait de tout et de rien, du scoutisme. Et c'est là, je me suis dit, bah tiens, c'est intéressant, j'aimerais être scout aussi. Et il m'a dit, bah, vu ton âge, tu ne veux plus être scout, à moins que tu sois...
Ça s'arrête à quelle heure, à quel âge? J'allais dire à quelle heure, nous c'est 15h30, hein, pour ceux qui nous écoutent surtout. Mais à quel âge ça s'arrête?
Les propositions qui sont faites aux jeunes, c'est 21 ans.
21 ans, d'accord.
21 ans, ouais. 17 à 21, c'est les compagnons, ils font notre projet, et puis voilà. Ouais.
Et vous aviez quel âge?
Bah, moi j'ai 27 ans.
D'accord. Et alors, vous êtes donc venu, alors vous êtes, c'est quand même un parcours atypique, Soufou, parce que vous êtes devenu chef louveteau aujourd'hui,
mais
vous n'étiez pas scout quand vous étiez enfant. Vous avez donc, j'imagine, suivi une formation pour devenir chef louveteau.
Oui, exactement.
Donc, je demande à nos experts, Youssoufou, on peut devenir, entrer dans la hiérarchie, l'organigramme des scouts sans jamais avoir été scout?
Oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'on attire de plus en plus de gens qui n'ont pas commencé à 8 ans et fait un parcours classique pour grandir dans le scoutisme. Et on permet à des jeunes de s'engager au service d'une association et d'avoir, chose assez miraculeuse, un retour direct de leur engagement. C'est-à-dire que en organisant des activités pour des enfants beaucoup plus jeunes qu'eux, en prenant la responsabilité de les emmener courir dans les bois, découvrir la nature et apprendre à vivre ensemble, ils se renvoient à eux-mêmes une image incroyable et beaucoup plus forte et plus positive que celle que la société renvoie aujourd'hui aux jeunes. Et donc on a effectivement de plus en plus de personnes qui arrivent de l'extérieur et qui rentrent et qui ensuite apprennent par le cadre de formations BAFA, qui sont des formations...
On va en parler après de la formation.
Des formations nationales, à devenir responsable de gens et éducateurs de jeunes.
Très bien, merci beaucoup Youssoufou, je vous remercie d'avoir été le premier auditeur. Il y a toujours un statut très particulier pour le premier auditeur dans l'émission chaque jour, donc merci beaucoup Youssoufou de nous avoir appelé. Allez, on va marquer une courte pause et on va voir toujours avec les experts Europe 1, quelles sont les émotions que vous avez rencontrées lorsque vous étiez scout, vos souvenirs, et puis venez nous dire aujourd'hui si vous pensez vous que le scoutisme est dépassé ou ringard. 3921, la page Facebook ou encore europe1.fr.
Les experts Europe 1, tous les jours 14h, 15h30.
Roland Pérez.
On parle aujourd'hui avec les experts européens de ce mouvement de jeunesse que sont les scouts et guides de France, mouvement ouvert à tous et à toutes, sans distinction de nationalité, de culture, d'origine sociale ou de croyance. Vous avez peut-être été farfadé, louveteau, Jeannette, scout, guide, pionnier, caravelle, compagnon ou encore groupe. Tout cela évidemment dans le cadre de votre engagement scout. Venez nous raconter votre histoire. Et si vous vous posez la question en tant que parent d'impliquer vos enfants dans le scoutisme, c'est le moment alors de poser vos questions à nos deux expertes. Aujourd'hui, Sophie Mancel de la Fédération des Scouts Guides de France et Elsa Bouneau, présidente des Éclaireuses Unionistes de France. Vous connaissez le numéro de téléphone, le 3921, et vous pouvez également nous écrire sur la page Facebook de l'émission et europe1.fr.
Alors, on va donner dans quelques secondes la parole à Céline, qui est parent de Mathilde, une jeune trisomique. On va parler avec elle parce que je crois qu'elle a intégré un mouvement, justement, elle a intégré le scoutisme. Juste avant, j'aimerais rappeler que donc, le scoutisme vient du mot éclaireur, escouté, issu du vieux français. C'est un mouvement de jeunesse mondiale qui avait été créé en 1907 par Robert Baden-Powell, qui était lui-même général britannique à la retraite. Toutes les deux, aujourd'hui, si vous deviez, en quelques mots, définir vraiment l'objet de ce mouvement de jeunesse qui est, on l'a rappelé, l'objet d'un mouvement de jeunesse mondial. Sophie Mancel.
Je pense que il y a le mot fraternité qui revient, enfin forcément quand on parle de scoutisme, et le mot engagement aussi, qui est très fort parce que, comme le disait Elsa tout à l'heure, on propose à des jeunes adultes de s'engager et on propose aussi un engagement à la mesure des enfants et des jeunes à chaque âge, un engagement un peu différent.
Et vous, Elsa Bounot?
Non, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit, c'est-à-dire que la question de l'engagement qu'on reconnaît assez peu aujourd'hui aux jeunes en France, elle est hyper réelle là et elle s'incarne concrètement à la fois dans la fraternité, à la fois dans la promesse qu'ils font de s'engager pour le groupe et tout ça dans un cadre qui est celui de l'environnement naturel sur quelque chose d'un peu plus simple que ce qu'ils vivent au quotidien. Où ils sont happés par les écrans d'ordinateur, les écrans de télé. Voilà.
Oui, parce qu'il y a aussi la découverte de la nature. Toutes les activités se font essentiellement à l'extérieur. D'ailleurs, Elsa Bounot, j'aimerais qu'on rappelle bien, il y a quoi? Il y a 5 associations aujourd'hui?
Oui, en tout cas, il y a 5 associations qui sont reconnues par les organisations mondiales au sein d'une seule fédération. Ouais, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une association juive, une association musulmane, une association laïque, et les catholiques et les protestants que nous représentons aujourd'hui avec Sophie. Et c'est très fort comme acte de dire que ces 5 associations, qui sont de 4 confessions plus les laïcs différentes, prônent ensemble, et leur logique c'est de dire on se rassemble sans se ressembler. Et tous ensemble, on propose la même chose qui est cette grande fraternité, avec des obédiences différentes, avec une spiritualité différente, puisque même les laïcs ont une forme de spiritualité. Et c'est très fort aujourd'hui, en particulier dans des débats comme celui de la laïcité, où nous on dit « rencontrez-vous, vivez ensemble ». Regardez ce qui vous ressemble, parce que vous vous ressemblez, vous êtes des enfants les uns et les autres, et vous avez des spécificités, découvrez-les.
Et bien justement, les scouts luttent, on l'a bien compris, contre les comportements qui marginalisent ou qui excluent, dialogue, ouverture, apprentissage de la différence, et on accueille justement Céline qui est avec nous en ligne sur Europe 1. Bonjour Céline.
Bonjour.
Vous êtes parent de Mathilde, une petite trisomique, et qui a intégré les scouts.
Oui, tout à fait. Mathilde a 16 ans aujourd'hui et elle est scout, on va dire ça comme ça, depuis 2 ans maintenant.
Elle est scout où?
Elle est scout en Haute-Loire,
oui.
Sur le groupe 10 Saint-Jo.
D'accord.
Et elle a rejoint un petit groupe d'adolescents, 7 à 8 adolescents, qui sont scouts et qui l'ont vraiment accueilli avec un grand A.
Les enfants handicapés sont accueillis sans difficulté. Sophie Mancel, je pose la question à Sophie Mancel et puis ensuite Céline, vous allez réagir bien sûr.
Alors on peut, enfin en tout cas nous on cherche vraiment à accueillir au maximum tous les enfants qui souhaitent faire du scoutisme, donc y compris effectivement les enfants qui sont en situation de handicap. Après il nous arrive de rencontrer certaines difficultés, mais justement on met en place des aides pour justement accompagner les chefs et cheftaines.
Mais il n'y a pas un groupe spécifique d'enfants qui seraient handicapés ou en situation de handicap ensemble?
Non. Le projet, enfin il existe des unités d'enfants handicapés. Ça existe, il y a une proposition chez nous qui s'appelle les Vents du Large, mais le projet aujourd'hui, qui est en cohérence avec notre société, c'est d'accueillir et d'intégrer ces enfants dans les unités, dans les groupes classiques. On va dire.
D'accord. Céline, Mathilde a commencé à quel âge?
À 14 ans, à peu près. Et on était très inquiets en tant que parents, dans le sens où, en tant que parents de jeunes filles porteuses de handicap, il y a toujours la difficulté de l'autonomie qui se pose.
Bien sûr.
Surtout dans un groupe, un mouvement comme celui du scoutisme, qui visiblement repose quand même beaucoup sur l'autonomie, l'autonomisation au sens noble du terme. Mmh. Donc la difficulté pour nous en tant que parents, en tout cas, ça a été de dire est-ce qu'on a bien toutes les conditions de sécurité réunies? Est-ce que notre fille ne va pas être un poids pour le reste du groupe?
Oui, parce que vous aviez l'assurance qu'elle serait bien accueillie compte tenu des valeurs véhiculées par le scoutisme. Oui, en revanche, vous vous demandiez si elle allait quand même, elle, bien s'intégrer et pas plutôt souffrir.
Voilà, c'était plutôt là que se situaient nos interrogations, puisque vraiment la manière dont Mathilde a été accueillie, ça a été formidable. ça a été un facteur d'intégration pour nous, sociale aussi, puisque Mathilde étant dans un circuit scolaire particulier, même si elle était dans un collège, elle était en CLIS, en ULIS plus exactement, donc c'est un milieu un petit peu protégé, voilà, là c'était un peu le grand saut, la période de l'adolescence en plus, où elle se retrouvait avec un groupe de jeunes de son âge, classique, on va dire, des jeunes ados classiques.
Dites-moi une chose, pourquoi vous y aviez pas pensé avant? Avant ces 14 ans?
Parce que, bonne question. il s'est trouvé qu'on avait plutôt pris l'option du centre de loisirs jusqu'à ce moment-là. Et puis, nos amis, nos connaissances qui avaient aussi des enfants porteurs de handicap ont un peu ouvert la voie et nous ont, nous ont ouvert cette possibilité à laquelle nous n'avions pas pensé.
Aujourd'hui, vous êtes, et surtout Mathilde, est heureuse?
Ah ben, on peut vraiment dire puissance 10 d'ailleurs. Hein.
Puissance 10. Elle a participé, elle s'est dépassée par rapport à ce qu'elle faisait ou ce qu'elle faisait avant d'intégrer ce groupe?
Je crois. Alors, ça lui appartient, puisque nous ne sommes pas avec elle à ses côtés pendant le camp. Mais lorsqu'on on la récupère, on va dire, après ces 15 jours de camp, et c'est tout frais pour nous, puisqu'elle rentre de 15 jours d'encadrement handisport, les championnats du monde à Lyon.
Voilà. Oui, parce que Céline, quelqu'un nous signale, on a la page Facebook de l'émission, quelqu'un nous dit qu'elle a participé justement au championnat handisport. Céline, je vais vous proposer juste de rester avec nous parce qu'on a l'impératif des pubs, mais oui, même quand on parle de scout, on a toujours prêt pour la pub. Alors on lance la pub et puis après on se retrouve, Céline.
Les experts Europe 1, tous les jours, 14h, 15h30.
Roland Pérez.
Et on parle de scoutisme aujourd'hui avec les experts Europe 1 jusqu'à 15h30. Existe-t-il vraiment une loi scout? Le scoutisme est-il forcément lié à une religion? Si je ne suis pas catholique, puis-je m'inscrire en tant que scout? Combien cela coûte de participer aux activités? Et combien cela coûte de devenir scout? Toutes ces questions, les experts Europe 1 y répondent et s'engagent aussi à répondre à toutes les questions que l'imagination de Roland n'aurait pas encore explorées cet après-midi. Oui. Appelez-nous au 39 21 34 centimes d'euros la minute, la page Facebook de l'émission bien sûr, et le site internet europe1.fr pour vos mails.
Et nous étions juste avant cette longue pause, et je m'en excuse Céline, je vous avais coupé à 14h28 pour lancer la pub, je vous avais dit qu'on revenait très vite, j'avais juste oublié qu'il y avait une petite pause musicale Céline. Vous êtes toujours avec nous, je rappelle vous êtes le parent de Mathilde, une jeune trisomique qui est aujourd'hui depuis 2 ans, qui a intégré aujourd'hui le scoutisme, et vous vous félicitez, la petite aussi, de cette intégration, c'est ce qu'on était en train de se dire juste avant cette coupure.
Oui, parce que cette intégration l'a fait grandir, de toute évidence. Quand je disais juste avant la chanson que lorsqu'on récupère Mathilde après ses 15 jours de camp, elle est plus grande. Elle a changé, de toute évidence, elle a grandi. Elle a envie de faire des choses seule. Et je crois qu'on va dire la chose la plus importante, c'est le fait d'appartenir à une communauté d'ados. Qui la reconnaissent comme telle, faisant partie des leurs. Et ça, je crois, pour elle, ça la touche énormément.
Oui, et puis elle a acquis, j'imagine, plus d'autonomie qu'elle ne l'aurait fait en restant toujours avec vous.
C'est ça. C'est qu'on a besoin, et c'est valable pour tous les parents, on a besoin que nos enfants prennent l'air ailleurs pour qu'ils puissent grandir, pour qu'ils puissent se construire en dehors de nos propres, on va dire, formatages.
Oui.
Et c'est particulièrement flagrant chez notre Mathilde. Je ne peux pas parler des autres enfants, mais bon, visiblement, c'est vrai que pour les enfants trisomiques qui sont relativement autonomes, c'est quand même la difficulté à savoir quel est le degré d'autonomie. Et je trouve vraiment que le mouvement scout part à toute confiance et puis fait confiance à Mathilde. Voilà, c'est ça aussi.
On va demander. Merci beaucoup Céline pour votre témoignage. Merci beaucoup. On va demander une réaction de nos experts, Sophie Mancel et Elsa Bounot. Sophie.
Moi, je suis toujours très touchée d'entendre les parents dire que leurs enfants grandissent quand ils participent à une activité scout. C'est sans doute très vrai pour Mathilde, parce que effectivement, c'est une jeune fille qui est atteinte de trisomie, et donc c'est sans doute quelque chose de très important pour elle. Et je pense que c'est aussi très important pour n'importe quel enfant, et que les enfants ressortent grandis de ces expériences de scoutisme.
Elsa Bounot.
Ce qui est magique, en fait, c'est qu'on propose aux enfants d'aller courir dans les bois, de construire des cabanes et de vivre avec leurs copains, et qu'en fait, sans se rendre compte de rien, ils apprennent plein de choses. Et à chaque fois, les parents sont subjugués, que ce soit des parents qui, effectivement, comme Céline le dit, qui ont des enfants qui souffrent d'un handicap, mais tous les enfants qui viennent dans le scoutisme changent et grandissent au contact des autres, par la pédagogie qui leur est proposée, par les jeux qu'on leur propose. Et eux, ils se rendent compte de rien. Et nous, on a réussi notre coup.
Vous êtes d'accord, Hervé, qu'on accueille sur l'antenne d'Europe 1? Bonjour, Hervé.
Oui, bonjour, Roland. Bonjour, les experts.
Alors, vous encadrez, des scouts à Rennes dans un milieu semi-rural, c'est ce que vous dites.
Tout à fait. Donc, autour de Rennes, la périphérie de Rennes.
Voilà. Et vous avez un joli souvenir, c'est ce que m'a dit Marie dans le coin de mon oreille et dans mon casque. Elle me dit qu'elle a un très joli souvenir à nous raconter d'organisation de la Chandeleur. Dites-nous.
Oui, tout à fait. Donc en fait, à la Chandeleur cette année, donc au mois de février, on a invité les différents mouvements scouts, comme l'expliquait Elsa et Sophie tout à l'heure, dont les scouts musulmans de France. Et nous avons vécu un moment de partage en fait avec eux et avec nous autour d'une prière, avec un chant, c'est El Fatia, et avec un psaume chrétien. On a pu partager sur ces éléments-là et sur les 7 piliers du scoutisme. Et derrière, c'est pas seulement les enfants qui ont grandi, mais aussi les parents. C'est une chose importante, parce qu'on a parlé des enfants, c'est d'office un mouvement fait pour les enfants, mais derrière,
c'est le regard des parents,
toute la famille.
Ouais. Voilà. C'est le regard des parents et les vertus de tolérance qui rentrent, qui reviennent à la maison, en fait. Justement, Elsa Bounot, est-ce qu'il y a souvent une interaction entre les différentes associations, on va dire, de scouts religieux?
En fait, on est rassemblés donc dans cette fédération, et en tout cas, moi, je siège au Conseil national. Et ce qui se passe, c'est que localement, il y a des rencontres qui se vivent. Alors, par exemple, cet été, il y a eu un truc qui s'appelait Vie mon camp, où on proposait aux jeunes de groupes différents, d'associations différentes, de partager un moment ensemble. Donc, par exemple, que les scouts musulmans de France viennent sur le camp des éclaireurs de France, ou que, enfin voilà, que ça se mélange, et qu'ils découvrent leur quotidien, qu'ils découvrent leurs pratiques, et qu'ils se rendent compte, comme je disais tout à l'heure, que on se ressemble sans se rassembler, on se rassemble sans se ressembler, je m'en mêle les pinceaux. Et en fait, c'est là que c'est magique, c'est-à-dire qu'on arrête de nous parler d'une situation qui serait difficile, où les jeunes se replieraient dans leur communauté. Non, c'est pas vrai. En fait, ils vivent ensemble, ils jouent ensemble, ils partagent des choses. Et encore une fois, au-delà du plaisir qu'ils ont à vivre cette chose-là, nous, on transmet des valeurs de tolérance qui ensuite interpénètrent la cellule familiale, les copains à l'école, et voilà, oui. Ça se diffuse.
Irradie toute la cellule familiale. Hervé, vous êtes d'accord?
Oui, tout à fait. C'est vraiment l'aspect du scoutisme, il faut le voir aussi comme une chance pour les enfants, mais vraiment une chance aussi pour les familles et pour toutes nos communautés.
Vous avez 40 ans, Hervé. Vous avez 40 ans. Vous encadrez, donc, on l'a dit, ces scouts dans le milieu semi-rural aux environs de Rennes. Vous vivez de cela, Hervé?
Non, pas du tout. Non, je suis bénévole.
Vous êtes bénévole, oui.
J'ai un long passé, on va dire, dans le scoutisme, qui a commencé en étant jeune, comme enfant, louveteau, etc. Je l'ai poursuivi aussi au sein d'un service militaire, parce qu'à une époque, on pouvait faire notre service militaire au sein des scouts et guides de France, dans les cités, justement, pour aider les jeunes de cité à découvrir le scoutisme. Et puis après, ben, comme tout le monde, on a des enfants, on fait une pause. Et puis, 10 ans après, on y revient. Voilà. Donc,
alors, justement, on voudrait faire le point. Merci beaucoup, Hervé, vraiment, pour votre témoignage. Merci beaucoup.
Merci, Roland. Merci, les experts.
À bientôt, Hervé. Merci de nous avoir joints. Sophie Mancel, justement, on fait juste le point. Bénévole, salarié, comment ça se passe? Il y a beaucoup plus de bénévoles que de être salarié, j'imagine.
Alors, effectivement, notre mouvement repose sur un engagement volontaire des jeunes adultes qui encadrent les enfants et les jeunes. Donc, tous les encadrants sont bénévoles. Il y a quelques salariés, dont moi je fais partie, qui sont dans des bureaux et qui, on va dire, s'assurent de la bonne marche générale du mouvement, aussi bien des administratifs que des services support, que des personnes qui s'occupent de la pédagogie. Mais nous reposons sur le bénévolat et c'est ce qui aussi fait, enfin, donne une spécificité au scoutisme.
Alors, on va accueillir Yvette. Je me réjouis déjà d'avance d'accueillir Yvette sur l'antenne d'Europe 1 en lisant son témoignage. Bonjour Yvette.
Bonjour les experts.
Et votre voix confirme le délicieux échange que l'on va t'avoir, Yvette. Vous avez 83 ans, Yvette.
Ah ben, ça m'a énormément amusée ce matin d'entendre Pierre Bellemare raconter ses expériences de scout, et particulièrement en avril 1945, donc quand Lady Baden-Powell est venue à Paris, c'était pour la Saint-Georges.
La femme du général, alors.
La femme du général.
Et vous l'appelez Lady Baden-Powell, quelle classe, Yvette.
Et à cette occasion-là, tous les scouts disponibles ont été convoqués pour défiler sur les Champs-Élysées devant Lady Baden-Powell.
D'accord. Et vous?
Et Pierre Bellemare y était, et moi aussi.
Oh là là, là, vous auriez dû appeler ce matin Julia Martin pour l'émission qu'elle faisait effectivement sur campus avec Pierre Bellemare. En voilà. Tout cas, vous faites de l'autopromo pour les antennes, vous êtes parfaite, Yvette. Hein. Bravo. Merci pour Europe 1.
D'autant plus émue que j'ai 13 petits-enfants, mais j'ai un petit-fils qui vient de rentrer au scout et qui vient de faire son premier camp scout.
Ouais.
Et il était chez nous en vacances cet été, là il est reparti il y a quelques jours, et j'avais évoqué ce souvenir justement de ce défilé sur les Champs-Élysées.
Vous ne saviez pas encore que Pierre Bellemare était avec vous?
Ah non, non, non.
Vous l'avez appris ce matin grâce à Europe 1, Yvette.
Je l'ai appris ce matin.
Oui.
Et puis, je pense que Michel Rocard y était aussi parce que nous avons découvert...
Quelle dragueuse cette Yvette, hein. Quelle dragueuse, Michel Rocard, Pierre Bellemare.
Ben, Michel Rocard, qui est protestant comme moi, oui, était scout unioniste à Conflans-Sainte-Honorine quand moi, je faisais partie du Vésinet, des scouts unionistes du Vésinet. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer longtemps après, quand il était maire de Conflans-Sainte-Honorine et que moi j'avais une responsabilité à la mairie de Château où j'habitais. Et on a évoqué ses souvenirs de scout, entre autres un autre. Justement, vous parliez tout à l'heure de la réunion de tous les scouts.
Oui.
Et nous avions décidé, toutes les troupes de toutes les confessions, de tous les âges, de faire une grande manifestation un week-end dans toute la boucle de la Seine. Et Michel Rocard se souvenait de cette manifestation aussi, où il y avait vraiment tous les âges et toutes les confessions et toutes les troupes possibles réunies dans la boucle de la Seine aux alentours du Vésinet, de Château.
C'est très joli de l'évoquer avec vous. Yvette, je vous propose de rester avec nous. Vous allez être associée à l'émission puisque vous faites déjà l'autopromo. Donc on va vous associer à la petite coupure pause, pub. Et puis vous allez rester avec moi. J'ai encore quelques petites questions à vous poser.
Les experts Europe 1, tous les jours, 14h, 15h30.
Roland Pérez.
Toujours prêt de notre mieux, servir, ruser, aigle toujours plus vite, toujours plus haut, chevreuil, ouvre toujours l'œil. Autant de cris de patrouille et de devises qui doivent très certainement vous évoquer de bons souvenirs à vous, auditeurs d'Europe 1. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on parle de scoutisme jusqu'à 15h30. C'est le moment d'échanger avec les experts d'Europe 1. Et vous pouvez nous appeler 39 21 34 centimes d'euros la minute, europe1.fr pour vos mails, sans oublier la page Facebook de l'émission.
Et juste avant cette longue coupure musicale, nous étions avec la délicieuse Yvette qui nous rappelait qu'elle avait défilé avec Pierre Bellemare en écoutant l'émission ce matin. Elle a découvert qu'en fait, elle avait défilé avec les scouts sur les Champs-Élysées en 1945. Vous aviez quoi? Vous aviez à peine 15 ans, 14 ans, Yvette?
Je n'avais pas 15 ans.
Eh oui, vous n'aviez pas. Oui, alors, moi, je voulais juste vous poser, avant de vous laisser écouter tranquillement l'émission sans être avec nous forcément, je voulais juste vous savoir comment vous êtes venue au scoutisme.
En fait, nous sommes revenus dans la banlieue parisienne à la fin de la guerre et nous avons passé toute la guerre en Loire-Atlantique et je n'avais plus d'amis, vraiment, il fallait que je me refasse complètement des amis.
C'est séductrice qu'est Yvette, j'ai bien compris. Allez-y.
Et j'ai pensé que j'en ai entendu parler certainement par quelqu'un du temple, puisque nous étions rattachés au temple du Vésinet.
D'accord.
Et j'ai voulu absolument y rentrer. Et mes parents ne voulaient pas. Alors j'ai demandé, comme cadeau d'anniversaire, j'ai demandé l'autorisation de rentrer dans le scoutisme. Et là, mes parents me l'ont accordé.
Elle me dit, Anissa, que le temple ou l'église, ou pourquoi pas la synagogue ou autre, c'était un peu le Facebook de l'époque.
Vous vouliez vous faire des amis, Yvette?
Ben, c'est ça. Oui, oui. Mais là, c'était des amis en vrai et pas virtuels.
Oui, c'est vrai.
Et oui, parce qu'en fait, ça faisait, on l'a dit, le scoutisme est né en 1907. Donc, il avait en 1930 ou 31, il n'avait à peine que 20 ans d'existence. Donc, ce n'était pas encore ce mouvement que l'on connaît aujourd'hui. Vous y avez mis vos enfants, vos petits-enfants, vous disiez oui, mais est-ce que vos enfants y ont été?
Un petit peu, mais une de mes filles y a été, mais enfin, elle était passionnée par d'autres choses et elle n'y est pas restée longtemps. Mais là, mon petit-fils, alors, il est mordu à fond. Et puis, dans toutes les devises que vous avez citées, il y en a une que vous avez oubliée.
Allez-y.
C'est « scout un jour ». Toujours.
Ah, on comptait la garder pour tout à l'heure, mais vous avez fait l'auto-promo de l'émission. Vous êtes parfaite. Yvette, bientôt, je vais vous mettre un petit siège à côté de moi et vous allez venir parler avec nous pendant l'émission. Merci beaucoup, Yvette. C'était très délicieux de parler
vous
avec
en
vous.
Prie, mais c'était vraiment la visite de mon petit-fils, Pierre Bellemare, ce matin. Et vous, cet après-midi, ça faisait trop de choses. Il fallait que j'apprenne.
Il fallait que vous parliez. Il fallait que vous parliez. Allez, on vous embrasse très fort, Yvette. Et restez avec nous lundi. Il y aura peut-être un sujet qui va vous intéresser.
À la radio, maintenant.
Mais surtout, merci. Je vous embrasse. Alors, je vais vous demander à toutes les deux, mes chers experts, Sophie Mancel et Elsa Bounod, de réagir sur un courriel que nous avons, sur la page Facebook de l'émission. C'est Xavier qui nous écrit « Le scoutisme permet de redonner du sens à la notion de vacances abordables. En effet, les encadrants, les chefs, font 100% des animations. Ils ne sont pas là pour accompagner des enfants ou ados à des activités avec des prestataires qu'il faut financer. Ce sont eux qui anime avec les moyens du bord la vie quotidienne, la nature et les jeunes eux-mêmes. » Alors comment font-ils justement ces encadrants? Est-ce qu'il y en a suffisamment, Sophie Mancel?
Alors, on a un taux d'encadrement qui est assez bon, mais c'est vrai que c'est toujours difficile de trouver des jeunes qui s'engagent dans la durée pour encadrer des enfants, puisque c'est un encadrement qui dure toute l'année, puisque les activités scouts, c'est aussi bien au mois de septembre, enfin voilà, toute l'année scolaire que pendant le camp d'été, avec les mêmes encadrants, donc qui ont cet engagement dans la durée. Et puis, comme le disait ce courriel, et qui font tout de A à Z, donc la préparation du grand jeu, les courses pour le week-end, la préparation du projet de camp qui est aussi quelque chose de très important, se former. Donc,
ceux qui viennent généralement, alors on l'a vu tout à l'heure avec Youssoufou, il était lui pas scout avant, il est venu par un ami, mais généralement ceux qui viennent, c'est ceux qui ont été eux-mêmes scouts. Elsa, vous confirmez?
Oui, souvent, c'est des gens qui, parce qu'ils ont, ils l'ont vécu enfant, ont envie de le faire vivre à d'autres. C'est très souvent ça la principale motivation. Ensuite, effectivement, ils se retrouvent à la tête de petites entreprises, c'est-à-dire qu'à devoir gérer d'abord, à devoir se former, à devoir apprendre, à acquérir des compétences, ensuite à devoir encadrer des gens, parfois diriger des camps, donc diriger des hommes et manager des équipes pour aller d'un point A à un point B qui est celui du projet, gérer des budgets qui sont parfois très conséquents. C'est-à-dire qu'on se demandait quel était le prix. En général, c'est 100 euros la semaine. À la louche, ça fait ça.
Le coût
pour un enfant, c'est ça. C'est-à-dire, en gros, pour 15 jours, c'est 200 euros. Pour 3 semaines, c'est 300 euros. Peut-être un peu plus, mais on est à peu près dans ce
temps. Si vous les prenez 3 semaines en charge?
C'est ça.
Alors oui, tout à fait.
Mais 3 semaines en charge, vous voulez dire où ils sont complètement pris en charge, hébergement et
oui, alors l'hébergement, c'est une tente. Donc effectivement,
d'accord,
c'est sûr, on réduit nos coûts comme ça.
Et nourriture et activité.
Nourriture, activité et effectivement, comme
j'envoie Anissa, parce qu'elle a la moins d'un an, j'envoie Anissa comme louvetienne.
Jeannette,
pardon.
Elle en a très envie, ça se voit. Mais oui.
Je l'envoie comme Jeannette et je paye que 300 euros.
Oui, en l'occurrence,
les Jeannettes, elles partent,
partent moins longtemps parce que c'est des petits, donc ils partent en général une semaine ou deux.
Alors, si ça ne coûtera que 300 euros.
Oui, trois semaines, c'est 350 euros.
Parce que par rapport au coût des colonies de vacances, c'est une concurrence déloyale.
Oui, parce qu'on est vraiment dans cette notion de simplicité, c'est-à-dire qu'on mange bien, on mange local, donc ça va nous coûter moins cher. On a des accords avec les agriculteurs locaux, on est sur des circuits courts, on dort sous tente, on fait des jeux qui ne demandent pas des milliers d'euros, parce qu'effectivement, on utilise de la ficelle, du bois, des déguisements qu'on récupère chez nos grands-parents.
C'est pas Koh-Lanta, on n'essaie pas de manger.
Non, on mange pas des serpents ni des cafards.
Mais ils partent loin, les enfants, ou ça reste dans la région d'origine?
Ça dépend un peu des politiques des associations, mais on essaye de réduire les distances aussi pour réduire l'impact environnemental et parce qu'on a souvent des choses à découvrir dans les campagnes qui sont environnantes.
Alors, ça, c'est le coût du séjour, mais si on est membre toute l'année, quand on devient membre, on doit payer également une cotisation. J'imagine.
Oui, on a une cotisation à l'année. Alors, je pense que le montant dépend des différentes associations.
Ça aussi, entre...
C'est une centaine d'euros.
Oui, ça, nous, c'est 65, 70.
Voilà, ça, nous, ça dépend en plus. Parce que...
Et ceux qui n'ont pas du tout les moyens et qui voudraient quand même que leur enfant soit scout.
Eh bien, ceux qui n'ont pas du tout les moyens, en général, les associations ont mis en place des fonds nationaux de soutien qui permettent de faciliter d'abord les prix, l'adhésion soutien ou solidarité chez nous, elle coûte 7 euros ou 10 euros, je crois. Donc, ça ne fait pas grand-chose l'année. Les week-ends, on trouve des solutions pour équilibrer les budgets sans eux. Et l'été, on leur fait des tarifs préférentiels. Et s'ils n'y arrivent pas encore, même avec le soutien des CAF, on a des fonds nationaux de solidarité qui sont alimentés par les dons que peuvent faire les donateurs des associations.
On accueille Stéphane, scout un jour, scout toujours. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour Roland, bonjour les experts.
Scout pendant 15 ans, vous. Et aujourd'hui, vous passez le relais à vos enfants. Expliquez-nous.
Ouais, exactement. Donc j'ai bien aimé le témoignage de Yvette, scout toujours, scout un jour, scout toujours.
Ouais.
Ça a été mon cas, effectivement, scout pendant une quinzaine d'années, chef pendant 4 ans. Et à l'âge où mes enfants ont eu l'occasion de pouvoir découvrir le scoutisme, on leur a proposé le scoutisme et aujourd'hui c'est toute la famille qui est engagée.
Ils ont vu des photos de vous avant, ils ont vu des photos de vous quand vous étiez scout?
Ah, j'ai eu l'occasion de leur en montrer quelques-unes, même si ça fait quelque temps, donc on n'a pas forcément toutes les photos qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais ils ont eu l'occasion de découvrir un petit peu ce qui s'est passé il y a quelques années. Et ça leur a donné envie d'essayer. Et puis finalement, ils y sont toujours et ça continue.
Alors vous justement, qui avez été scout, vos enfants le sont justement aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ça a évolué? Est-ce que les valeurs du scoutisme ont évolué?
Alors non, justement, c'est ce qui est intéressant dans ce qu'on peut retirer du scoutisme, c'est que je trouve que même si on vit aujourd'hui avec des moyens modernes de communication, le scoutisme n'a pas pris une ride parce que tout simplement on reste vraiment ancré sur l'apprentissage de valeurs, sur l'apprentissage de responsabilité, et je crois que c'est extrêmement fondateur pour les jeunes adultes de demain. Et ces valeurs-là, on les retrouve même 15 ans ou 30 ans ou 25 ans après. C'est assez étonnant.
La maman de vos enfants avait été scout?
Alors non, mon épouse n'a pas été scout. Par contre, on est complètement engagé aujourd'hui dans le mouvement puisqu'elle est trésorière du groupe.
Ah oui.
Moi, je donne un coup de main également au niveau du matériel, mais je souhaitais rendre par contre un vivant hommage au chef. Ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est vrai que les camps, les activités sont peut-être peu chères par rapport à d'autres activités. Par contre, les chefs sont complètement bénévoles. Donc, ouais. Les jeunes chefs qui encadrent nos enfants.
On a eu Hervé tout à l'heure.
Il faut vraiment qu'on aille leur donner un coup de main parce qu'ils sont complètement bénévoles. Ils prennent leur temps, de leur congé pour aller encadrer les enfants bénévolement. Et ça, c'est extrêmement important de les aider et de les encourager, parce que les groupes, comme on le disait tout à l'heure, les effectifs sont en augmentation, donc les groupes deviennent assez importants à gérer. Et on est, nous, parents, aux côtés des chefs pour les aider à faire en sorte que les activités se passent le mieux possible.
Alors justement, je demande à nos experts qui sont en studio avec nous, est-ce que les enfants scouts ont des activités avec les parents, soit anciens scouts, soit parents tout court? Est-ce qu'il y a on organise des sorties et des activités ensemble? Sophie Mancel.
Alors nous, on a une proposition qui est pour les farfadets les plus jeunes, les 6-8 ans, qui est spécifiquement encadrée par les parents. Donc c'est les parents
qu'on associe donc aux activités.
Voilà, ce sont les parents qui mettent en place les activités pour les enfants. Donc c'est une première découverte du scoutisme. Et après, les parents font partie de la communauté du groupe, en fait, comme on en a entendu parler tout à l'heure. Ils participent effectivement, ils sont invités à des week-ends, à des fêtes, comme par exemple la fête de la Chandeleur. On en parlait tout à l'heure, ça peut être une fête de groupe simplement organisée.
Et ça, c'est pour les plus jeunes, pas pour plus tard?
Non, c'est avec l'ensemble du groupe, en fait, de tous les âges. Là, on regroupe toutes les tranches d'âge, donc de 6 à 21 ans, au moment d'un événement un peu festif, et on associe les parents, qui sont aussi souvent très contents d'être associés, de voir un peu ce que font leurs enfants.
Merci beaucoup en tout cas Stéphane pour votre témoignage. Allez, le temps du flash de 15h et on revient pour parler du scoutisme. Et on voit bien, le scoutisme, c'est loin d'être un gare.
Les experts Europe 1.
Les experts Europe 1, 14h, 15h30.
Roland Pérez.
Et jusqu'à 15h30 sur Europe 1, on parle du scoutisme. Alors, un scout toujours prêt, Roland, se reconnaît par son salut pour dire bonjour ou au revoir.
Alors, comment on le fait ?
Alors, vous levez la main droite, à hauteur de l'épaule. Avec l'index, le majeur et l'annulaire droit pointés vers le haut. Ok, jusque-là, ça va ? Le pouce vient se recourber vers la paume de la main et recouvre l'auriculaire. Voilà, le salut
scout. C'est bon,
scout,
je le fais là.
Et, oui, mais sauf qu'il est réservé aux personnes ayant prononcé leur promesse scout.
Oh non, vous exagérez.
Donc ça sert à rien de le faire pour vous. Scout toujours, scout encore, c'est le thème, vous l'avez compris, des experts Europe 1 jusqu'à 15h30. Venez nous faire votre salut scout, vous aussi, au téléphone ou par mail. Pour joindre les experts, il suffit juste avec son index de composer le 39 21 34 centimes d'euros la minute. Nous sommes toujours avec Sophie Mancel de la Fédération des scouts et guides de France et Elsa Bounot, présidente des éclaireuses unioniste
de France.
Les experts Europe 1.
Roland Pérez.
En Angleterre, un homme eut l'idée du tonnerre. 100 ans plus tard, on parle de lui. 100 ans plus tard, il nous unit. C'est lui qui a fait notre histoire. Il sera toujours dans nos mémoires. Scout un jour, scout toujours. Déjà le siècle est toujours prêt. Scout un jour.
Voilà, la bande originale de Scout Toujours, le film 2 et avec Gérard Jugnot en 1985. Alors je l'ai vu que le scout n'était pas gouverné par des interdictions, mais par des indications positives. On parlait tout à l'heure avec Anissa de la loi scout. C'est quoi cette loi scout ?
Alors la loi scout, c'est un texte de référence sur lequel l'enfant, le jeune, va s'engager. Alors vous parlez tout à l'heure de l'évolution des valeurs du scoutisme. On se réfère à la loi scout qui a été écrite par Baden-Powell en 1907. Mais ce qu'on essaye aussi de faire, nous, aujourd'hui, dans le scoutisme, c'est d'être en phase avec la société et donc de s'adapter au monde d'aujourd'hui. Et donc les textes de loi sur lesquels s'engagent les enfants sont adaptés à leur âge. Donc un enfant de 8 ans, par exemple, va s'engager sur un texte de loi assez simple, dans lequel il va facilement se reconnaître. Et au fil des années, le texte de loi va un petit peu s'enrichir et l'engagement va être de plus en plus fort au fil des âges.
C'est son premier apprentissage avec les règles, finalement, des fois, de la société.
C'est ça, exactement.
Parce que oui, c'est ce qu'on voit. On cherche à donner des responsabilités à l'enfant et à l'adolescent pour former son caractère alors, par le jeu et l'action dans la nature. Et puis le respect de toutes les valeurs, on va dire, traditionnelles dans le milieu social. C'est bien un peu ça, Elsa ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, on prépare des acteurs de transformation sociale. Alors, c'est un peu gros comme mot, mais c'est ça. C'est-à-dire que en vivant ensemble les uns avec les autres, en respectant la nature, en vivant des relations apaisées les uns avec les autres, en essayant de résoudre des conflits, en s'engageant au service des autres dans le cadre de ce qu'on appelait anciennement les BA, dont on s'est beaucoup moqué, mais qui sont des actions de service. On a aujourd'hui des jeunes qui demain s'engageront dans la société, feront attention aux gens qui sont autour d'eux et seront pas dans un isolement, dans une peur de l'autre et dans un repli. Et c'est ça en fait les valeurs. Et ces valeurs-là, effectivement, elles sont centenaires. Et déjà Baden-Powell, quand il a mis ces jeunes sur son île, des jeunes qui étaient issus de différents milieux sociaux, il avait cette volonté-là qui était bien celle de comment à plusieurs on est plus fort et on fait des choses meilleures.
Alors on va le vérifier tout de suite sur le terrain parce qu'on a la chance d'avoir avec nous Denis qui est chef louveteau en Corse aujourd'hui. Bonjour Denis.
Oui, bonjour.
Et vous êtes avec vos petits louveteaux en Corse
qui vivent dans un camp près de Corté.
Voilà, ils vivent leur premier camp.
Une peuplade qui a été recréée à Bastia cette année-ci et qui de fait vit son premier grand camp d'été cette année, oui.
Ça fait combien de temps que vous êtes chef louveteau ?
Alors chef louveteau, c'est de cette année-ci hein, quand on a recommencé ici à Bastia. Donc depuis cet automne, on a recommencé courant de l'automne.
Vous avez quel âge, Denis ?
Moi, j'ai 38 ans.
Et vous étiez un ancien scout ?
Oui, j'étais chef, donc je viens de Belgique, donc j'étais chef pour les plus petits, ce qu'on appelle chez nous les baladins, les 6 à 8 ans, un petit peu l'équivalent des farfadets.
D'accord. Quand on dit scout un jour, scout toujours, ça veut dire que même quand on n'est plus scout, même quand on n'est plus engagé bénévole, on reste scout toute sa vie quand même, parce que ces valeurs, finalement, nous accompagnent toute notre vie.
Ah oui, tout à fait. Moi, dès que j'ai entendu parler de reprise de scoutisme sur Bastia, je suis monté au grenier où j'avais bien précieusement gardé mon ancien foulard et ma chemise de scout grand plaisir reporté.
On va parler justement tout à l'heure du costume, des insignes, du béret, du chapeau, du foulard, effectivement. Denis, est-ce que vous auriez par extraordinaire quelques petits louveteaux à vos côtés?
Ah mais j'en ai plusieurs, oui, qui n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir parler avec vous.
Est-ce qu'il y en a certains qui peuvent nous faire un petit cri, là, le petit cri des louveteaux? Est-ce qu'on peut les entendre tous ensemble?
Oh, bah, à mon avis, crier, ils vont pouvoir faire. Hein, je vais vous faire.
Alors, allez-y, essayez de les réunir et nous faire un petit cri juste pour illustrer notre émission et notre propos, pour prouver bien à nos auditeurs que nous sommes en direct.
Alors, un petit cri de sirène. Là, j'ai la sirène de lapin qui est à moitié complète. Allez, les lapins.
Les lapins, ce sont les humains, là.
Ils sont trop mignons, ces petits lapins, là. Est-ce que je peux avoir un petit lapin au téléphone?
Alors, je vais vous passer Emma.
Emma. Bonjour, Emma.
Bonjour.
Oh là là, Emma, on est contente de t'avoir sur l'antenne d'Europe 1, comme ça, à 15h09, en direct. Tu es heureuse?
Oui.
Depuis quand tu es arrivée, c'est ton premier camp finalement, Emma?
Oui, le premier camp d'une semaine.
Qu'est-ce que tu vis, Emma? Raconte-nous.
Je vis en fait une semaine vraiment formidable pour moi et moi je suis vraiment très contente de camper une semaine à portée.
J'espère que tes parents sont à l'écoute d'Europe 1 ou que tes amis, les amis de tes parents et qui vont pouvoir leur dire que tu as témoigné aujourd'hui. Tu t'es fait des amis? Tu es venue avec des amis ou tu t'es fait des amis sur place?
En fait, on est un peu des écoles d'art, donc j'ai des amis de mon école.
D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Comment se passe ta journée? Raconte-moi. Raconte-nous plutôt. Qu'est-ce que je suis égoïste, moi?
Eh bien, on fait plein d'activités. On mange dehors avec des tables qu'on construit et on monte des tentes pour dormir le soir.
Et t'as pas peur le soir quand tu dors? En fait, non. Quand je te dis ça, c'est parce que moi j'aurais peur. C'est pour ça que je te pose la question.
Non, c'est bon, j'ai pas peur. Mais la nuit dernière, il y avait de l'orage, donc ça faisait un peu peur quand même.
T'étais à côté de qui? Tu dormais avec qui dans la tente?
Avec Axel, ma copine, Iris, Marie et Pauline.
D'accord, alors justement, je vais demander à nos experts, reste avec nous Emma. On mélange pas les garçons et les filles? Dites-nous.
Pour dormir, on mélange pas les garçons
on
et
mélange
les filles.
On mélange pas, d'accord, mais pour et même les plus grands, même quand ils sont plus grands?
Ouais. Oui, ça c'est interdit de dormir, les garçons et les filles doivent dormir séparément. Mais par contre, on a des propositions qui sont différentes en fonction des associations sur est-ce qu'on rassemble les garçons et les filles au sein du groupe, au sein de l'équipe, donc de la petite équipe de 6 personnes qui structure le grand groupe. Et ça, il y a différentes propositions qui cohabitent, et en particulier chez les Scouts et Guides de France, qui est le rassemblement de 2 anciennes associations, dont une qui était uniquement féminine.
D'accord, mais les activités, on les fait tous ensemble?
Ça dépend des groupes.
D'accord.
Il y en a où il n'y a que des filles.
Que des filles.
Et
mais
des garçons.
Généralement, quand on est de vacances, généralement, on ne dort pas effectivement ensemble.
Mais par contre, on dort
pas. On partage
ensemble
les activités. Emma?
Oui.
Qu'est-ce que tu vas faire cet après-midi?
On va faire les Olympiades.
C'est quoi les Olympiades?
Génial.
Voilà, ça rappelle des souvenirs à Anissa. C'est quoi les Olympiades?
C'est des jeux qu'on invente et on fait des concours. C'est rigolo, j'y viens.
Franchement, Emma, c'était plus belles vacances?
Oui, vraiment, franchement, oui.
T'as quel âge, Emma?
J'ai 10 ans.
Bah écoutez, super mignonne, Emma. Merci beaucoup parce que t'as témoigné avec beaucoup de spontanéité. Tu n'étais pas timide et j'ose penser que déjà le scoutisme a eu beaucoup d'influence positive sur toi. Je t'embrasse très fort, tu embrasseras tous tes copains et toutes tes copines, toutes celles qui partagent avec toi la petite tente, et n'aie pas peur quand il y a leur âge. D'accord? Je t'embrasse. Denis.
Oui.
Denis, c'est parti pour combien de temps ce camp?
Alors c'est un camp qui s'étale sur une semaine. Donc là, on a dépassé la mi-camp. Nous sommes arrivés, les enfants sont arrivés dimanche. Et on reste jusqu'à le dimanche qui vient. Là.
Vous êtes heureux, Denis?
Ah moi, comme un dieu, comme un pape, comme tout ce que vous voulez. Moi, je suis dans mon élément.
D'accord, pas comme un rabbin ou pas comme un juste comme un dieu, comme un pape. D'accord. Je vous embrasse, Denis. Merci. Je sais pas pourquoi je vous embrasse d'ailleurs, mais c'est pas grave. Je vous embrasse. À bientôt. Allez, une courte page de publicité et on se retrouve.
Les experts Europe 1, tous les jours, 14h-15h30.
Roland Pérez.
Et on parle aujourd'hui avec les experts européens de ce mouvement de jeunesse qu'est le scoutisme. Vous avez des souvenirs, des questions à poser à nos experts aujourd'hui. N'hésitez pas jusqu'à 15h30, 39,21, 34 centimes d'euros la minute ou europe1.fr.
Et c'est ce qu'a fait Nicole qui nous a envoyé un message sur Facebook. D'ailleurs, on n'a eu que des messages sur Facebook et aucun message bizarrement sur la page des experts. Alors, Nicole nous dit « Bonjour, j'ai un garçon de 9 ans et avec son papa, nous pensons l'inscrire chez les scouts ou éclaireurs. Son grand-père était éclaireur. Je voulais savoir comment faire, tant au niveau de l'inscription que du planning, programme des activités durant l'année. » Alors, qui peut répondre toutes les deux? Oui, Sophie, oui. Elsa, Sophie.
D'abord, on peut s'inscrire à n'importe quel moment de l'année. Ça, c'est quand même important de le savoir. Même si les activités débutent à la rentrée, si on a envie de s'inscrire, on s'inscrit quand on veut. Et puis après, comment faire? Tout dépend de l'association, mais toutes nos associations ont des pages internet sur lesquelles on peut trouver tous les groupes référencés et donc les coordonnées pour contacter les gens les plus proches de chez cette personne.
D'accord. Elle nous a pas dit d'ailleurs d'où elle nous écrivait, donc je n'ai pas d'adresse. Karine nous dit merci à ce papa en train de témoigner sur le vrai de la vie d'un groupe scout. Le coût modéré n'est pas l'atout majeur, c'est le fait d'un mode de fonctionnement et notamment du bénévolat très actif des chefs. Merci à eux, merci à nos enfants. Leurs riches souvenirs sont un bien précieux.
Oui, c'est sûr, on est rien sans l'engagement bénévole des jeunes aujourd'hui et on doit un immense merci. Enfin, c'est sans eux, ça ne fonctionnerait pas.
Un mot sur le costume. Alors, on parlait tout à l'heure, il y a le béret ou il y a le chapeau, il y a le foulard. Est-ce que aujourd'hui c'est un uniforme préétabli ou chacune des associations ont des uniformes différents?
Chaque association a une tenue, on appelle plus ça un uniforme pour les connotations, ouais, qu'on pourrait y voir derrière, mais une tenue qui diffère et en général qui est composée d'un foulard, ça c'est la base, et d'une chemise de couleurs différentes en fonction de la tranche d'âge dans laquelle on se situe.
Voilà. Mais c'est important d'avoir cet accoutrement, on va dire, ou de cette tenue qui soit la même pour tout le monde.
En tout cas, pour les éclaireurs unionistes, oui, parce que
c'est un phénomène
nous,
d'égalité d'enfants, de mettre
exactement
les enfants qui n'arrivent pas avec des vêtements de marque pour certains, des vêtements peut-être moins coûteux pour d'autres.
Tout à fait. Et c'est comme au foot, c'est-à-dire on a une tenue dans laquelle on peut s'identifier.
Et puis c'est une identité forte aussi. C'est aussi, je dis que je suis scout et c'est une fierté pour les enfants d'être tous dans cette tenue qu'ils aiment porter.
On imagine. Y a-t-il des rassemblements justement d'anciens scouts?
Alors, il y a des rassemblements de scouts, oui, c'est des moments forts qui arrivent régulièrement. Et il y a des rassemblements d'anciens scouts qui existent aussi parce que on essaye justement de garder le lien avec ces anciens scouts qui sont pour nous toujours des personnes ressources aussi et des gens qui ont, comme on le disait tout à l'heure, scout un jour, scout toujours, envie de garder le lien avec leur association d'origine.
Beaucoup de couples se sont formés justement dans les camps de scouts, oui.
Ah oui.
Vous témoignez?
Oh, je peux témoigner, oui.
Sophie, ouais, vous avez rencontré comme ça votre compagnon?
Oui, tout à fait.
Eh ben, ne soyez pas timide, c'est
non,
bien.
Non, non, non.
Comment il s'appelle votre compagnon?
Il s'appelle Xavier.
Eh ben, on dit bonjour à Xavier. et vous, Elsa, vous avez rencontré aussi. C'est vrai qu'il est en régie parce que je sais plus lequel chéri c'était, si c'était à Elsa ou c'était à Sophie. Je leur ai dit bonjour. Je lui ai dit bonjour tout à l'heure, mais je savais plus lequel. C'est vrai qu'il a accompagné Sophie. On lui fait un petit signe en régie. Elsa, vous avez le temps de réfléchir du coup.
Oui, c'est ça, je cherchais la bonne réponse.
Ouais, je sais, j'ai compris, je vous ai un peu sauvé, allez-y.
Non, mais moi j'ai eu des aides. Oui, j'ai eu plein d'amoureux dans le scoutisme, mais aujourd'hui je n'ai pas de conjoint dans le scoutisme. Voilà.
D'accord, mais peut-être qu'un chef va se manifester aujourd'hui.
Mais peut-être.
Allez sur la page Facebook de l'émission, elle est ravissante, Elsa. On accueille Yannick sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Yannick.
Bonjour Alain, bonjour les sœurs.
Oh là là, vous avez vu comme ils sont dynamiques aujourd'hui, tous ces scouts là qui nous appellent. Vous avez vu le bonjour Roland. Alors vous avez démarré tard dans le scoutisme, mais vous avez 19 ans. Vous êtes très jeune.
Exactement.
En même temps Yannick.
Oui, j'ai démarré donc juste après les Journées mondiales de la jeunesse.
Oui.
Qui ont lieu à Madrid en 2011. Mmh. Et en vivant cet instant, en étant en plus avec d'énormes groupes scouts, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose, que j'aide un maximum. Et donc, avec l'expérience que j'avais acquise durant les années que j'ai faites dans les centres de loisirs, pendant mes vacances, je me suis investi auprès des jeunes, dans le groupe de Senlis, dans le sud de l'Oise. Je suis arrivé comme ça, les mains dans les poches, sans expérience d'encadrement. Et on m'a tout de suite accueilli les bras grands ouverts et on m'a expliqué
ce que je pouvais faire. Et donc, j'ai appris un petit peu toutes les valeurs sur le terrain.
D'accord, mais vous vous êtes réveillé, Yannick, vous vous êtes réveillé un matin en vous disant, alors que vous n'aviez pas été scout, vos parents avaient été dans le scoutisme ?
Non.
Donc, autour de vous, il n'y avait pas forcément, vous n'aviez pas forcément d'amis, comme on l'a tout à l'heure vu avec Youssoufou, qui était notre premier auditeur, qui avait un ami, lui, scout. Vous très peu ou pas du tout. Et vous êtes réveillé comme ça un matin, et tout d'un coup, vous vous êtes dit, j'ai envie de m'engager.
Exactement.
C'était quoi le bénévolat? C'était le bénévolat avant tout ou c'était toutes les valeurs véhiculées sur le scoutisme, autour du scoutisme?
C'était un ensemble. Je sentais qu'il fallait que je fasse quelque chose, que je puisse aider un maximum. Et plutôt que de m'investir dans une association qui coûte aux autres ou quoi que ce soit, j'ai cherché de m'investir vers quelque chose qui est vraiment du bénévolat. Je donne de mon temps, je partage mon expérience. Et avec ça, j'en acquiers une nouvelle et même auprès des jeunes, on m'apprend énormément de choses.
Alors justement, c'est important ce que vous dites, vous allez acquérir une expérience. Justement, un mot justement sur ce bénévolat, j'ai cru qu'en préparant cette émission, j'ai cru comprendre qu'on pouvait valider un peu les acquis de l'expérience autour du bénévolat dans le scoutisme, Elsa Bounot.
Il y a deux manières de valider les compétences, c'est-à-dire à la fois il y a le diplôme de brevet de formation d'animateur. Que
c'est le BAFA, ça.
Le BAFA, hein, et oui. Celui de directeur, qui sont aussi utilisables à l'extérieur, et on peut devenir directeur de colonie ou de centre de loisirs. Et il y a aussi la validation d'acquis d'expérience, la VAE, où on peut, dans le cadre de cursus,
acquérir un diplôme,
en particulier d'animateur socioculturel ou.
En tout cas, dans le cadre, on
valide des UE, par exemple, qui servent
des unités. D'accord. Yannick, c'est ce que vous ferez peut-être aussi? Vous demanderez peut-être cette validation?
Moi, j'ai pu faire donc un module d'aide à la prise de fonction lors de ma première année en tant que chef.
Oui.
Ensuite, j'ai fait mon BAFA.
Oui.
Que j'ai validé là avec mon camp, que j'ai fait en juillet. Et puis l'année prochaine, je peux entamer la deuxième partie du BAFA. Donc, c'est en quelque sorte une validation des acquis.
Qu'est-ce que vous faites? Vous faites des études par ailleurs, Yannick?
Exactement. Je fais des études de droit sur Amiens.
D'accord.
Et puis, en parallèle, j'ai des petits boulots par-ci par-là.
Vous savez ce que disait Coluche, hein? 5 années de droit, tout le reste de travers. Yannick, juste une dernière précision. Qu'est-ce que ça vous a appris sur vous aujourd'hui, cet engagement?
Ça m'a pas mal appris sur moi, dans le sens que je me suis révélé beaucoup plus énergique et beaucoup plus inventif que ce que je pensais. Et j'ai également perdu un petit peu de ma timidité en rentrant justement en tant que chef.
Vous avez rencontré une amoureuse ou pas?
Non.
Pas là-bas?
Non.
Pas une petite cheftaine?
Non, pas là-bas.
D'accord. Yannick.
Non, elle n'est pas en France.
D'accord. Mais bon, alors, d'où tout l'intérêt, effectivement, de cet engagement, on l'a bien compris, Yannick. Merci beaucoup pour votre témoignage, Yannick. On va accueillir Claude, qui va être notre dernier auditeur pour cette émission. Bonjour, Claude.
Oui, bonjour.
Alors, vous êtes un ancien scout et même fils de scout.
Oui, je suis... J'ai été scout quand j'étais jeune, je suis quand même assez âgé maintenant.
Et mes parents, assez âgé, arrêté, 63 ans, ça va?
Non, combien vous dites?
63, je sais pas, c'est encore mon écran.
70.
Mais qu'est-ce qu'il a?
Il rajeunit, l'écran rajeunit.
Il rajeunissait 2-3 ans, maintenant il rajeunit quasiment de 7 ans.
Non, mais vous avez raison.
Je vais m'appeler moi sur l'écran. Allez, Claude.
Merci, c'est bien. Donc j'ai été scout, mais avec d'autres valeurs que celles que je retrouve maintenant quand on voit les médias. Mes parents étaient scouts et se sont mariés en uniforme scout à l'époque.
Oula, on a le droit de se marier en uniforme scout? Je demande ça à nos experts.
Mais pourquoi pas?
Oui,
hein.
L'uniforme n'est pas réservé.
Ils se sont mariés pendant la guerre, donc il y avait peut-être une raison pour ça.
Ah ouais, d'accord, voilà. Ça passait mieux peut-être.
Et mon père a eu, comme j'entendais tout à l'heure, a eu le plaisir d'aller dans un jamboree sous la présidence de Baden-Powell.
D'accord. Ah oui. Donc pour finir cette émission, on a le scout qu'il fallait. Hein.
Et à l'époque, parmi les scouts qu'il y avait avec mon père, parmi les autres, il y en avait des milliers. Il y avait l'explorateur. Le nom m'échappe parce que ça me revient à l'esprit maintenant.
On a déjà eu Pierre Bellemare tout à l'heure comme explorateur, mais c'est un autre type d'exploration.
Des compagnons de la chanson, certains chanteurs qui faisaient partie des scouts. Alors ce que je voulais dire, c'est que quand je regarde des scouts se promener dans la rue ou des choses comme ça,
ouais.
Je trouve qu'il y a pas de valeur, que les valeurs se perdent
Par exemple, on parlait de l'uniforme tout à l'heure où il y a une chemise et un foulard. Maintenant, il n'y a plus la discipline qu'il y avait autrefois.
Nos experts ne sont pas d'accord, Claude. Hein, nos experts qui sont dans le studio, avec le sourire, elles font un petit nom de la tête. Elles sont pas d'accord. Elles trouvent que ces valeurs perdurent. Parce que quelles étaient pour vous les valeurs, Claude ? On va comme
c'était,
ça aller.
C'était le partage, le respect de l'autre.
Le courage.
Oui, le courage. 29 sapeurs quand on faisait des jeux de nuit, des choses comme ça. De pas être égoïste par rapport
Claude, vous les voyez vous promener dans la rue, mais en même temps, comment vous vérifiez si juste parce que c'est pas parce qu'ils se promènent dans la rue qu'ils ont perdu ces valeurs, hein?
Il y a un reportage qui est passé à la télévision, c'est il y a pas longtemps.
Mais la télévision, des fois, ils disent des choses.
Avec une chemise orange. Et un foulard.
Il faut écouter que la radio, Claude. La télévision, des fois, il se trompe un peu. Il faut écouter que la radio. On va donner la parole à nos experts. Sophie Mancel, les valeurs, elles sont toujours là. On a bien dit d'ici la valeur, le courage, le respect, l'autonomie.
Oui, je crois que les valeurs, elles sont vraiment toujours là. Et comme je vous disais tout à l'heure, elles sont présentes en lien en même temps avec la société d'aujourd'hui, avec la société actuelle. Donc effectivement, on a les scouts qu'on rencontre aujourd'hui ne sont certainement pas les mêmes que ceux qu'on rencontrait il y a quelques années. Mais pour exemple, là, en ce moment, il y a des jeunes de 14-17 ans qui sont en train de surveiller la forêt méditerranéenne et surveiller des départs de feux de forêt. Je pense que pour tout ce qui est partage, attention, courage, etc., enfin, on est encore dedans aujourd'hui. Vraiment, je pense qu'on est en phase aujourd'hui avec la société tout en défendant nos valeurs.
Elsa, vous êtes d'accord aussi ?
Oui, je crois qu'il ne faut pas s'arrêter au formalisme de l'apparence. Mais effectivement, les jeunes que nous accompagnons aujourd'hui, Yvette disait qu'elle avait 83 ans, j'en ai 30, 50 ans nous séparent. Et on fait partie de la même association et on a toujours la même flamme. C'est celle que, ensemble, on est plus fort et que la fraternité qui nous rassemble est indéfectible et qu'on peut partager des choses incroyables. Et ça n'a pas changé et on reste des acteurs de cette société civile.
Nous, en tout cas, on veut le croire. Merci beaucoup, Claude, pour votre témoignage. Ben voilà, cette émission va s'achever. Je vous remercie beaucoup, Sophie Mancel. Je rappelle que vous étiez venue aujourd'hui pour l'Association des Scouts Guides de France, avec votre mari en régie, d'ailleurs, qu'on salue, et Elsa Bouneau, présidente des Éclaireuses Unionistes de France. Merci à toutes les deux de nous avoir accompagnées pour cette émission. Lundi, Anissa, un sujet qui va vous faire frémir. On va parler de la vengeance des ex.
Oula.
Oui. Merci. Alors, si vous avez envie de témoigner déjà sur cette vengeance des ex parce que vous en avez été victime ou peut-être parce que vous mijotez peut-être une vengeance pour quelqu'un qui vous a quitté, venez le faire sur europe1.fr ou sur la page Facebook de l'émission. Et je remercie au nom d'Europe 1 et au nom des experts tous les auditeurs qui nous ont appelés toute la semaine et en particulier donc aujourd'hui vendredi.
Bon week-end.
Bon week-end.
À lundi. C'était Roland Pérez sur Europe 1.